avons eu une première session du G20 cet après-midi et elle a donné lieu à pas mal d'échanges bilatéraux en marge des réunions pour discuter notamment de la question qui, j'imagine, vous préoccupe le plus, qui est la question commerciale. Donc j'ai profité de ce G20 pour rappeler la position française sur ces questions commerciales. Nous reconnaissons qu'il y a un problème de surcapacité de production d'acier. Ce problème, il est connu de longue date. Et il faut y apporter maintenant une réponse efficace et une réponse rapide. Simplement, nous estimons que la réponse qui est apportée par le gouvernement américain n'est pas la bonne. Et j'ai eu l'occasion de le dire au secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, avec lequel je me suis entretenu longuement en marge du G20. Cette réponse n'est pas la bonne parce que c'est du protectionnisme qui aura un impact sur la croissance, qui aura un impact sur nos propres activités de production d'acier et d'aluminium en France et en Europe, et qui peut mener à une escalade dont tout le monde sortira perdant. Personne n'a rien à gagner d'une guerre commerciale. Elle ne fera que des perdants aux États-Unis comme en Europe. L'Europe a préparé un certain nombre de réponses que vous connaissez, des réponses portant sur des contre-mesures sur des produits importés des États-Unis en Europe, des mesures de sauvegarde qui pourraient s'avérer en tout état de cause nécessaires pour éviter que la surproduction d'acier dans le monde ne se déverse en Europe et ne fasse chuter les prix de l'acier en Europe, et puis des réponses dans le cadre de l'OMC ou du G20, comme nous en avons discuté tout à l'heure. Mais ce que nous souhaitons, c'est parvenir à une exemption globale de l'Union européenne des mesures américaines. L'Europe n'est pas responsable de la surcapacité de production d'acier dans le monde. Donc il n'y a aucune raison qu'elle soit ciblée aujourd'hui par les États-Unis. Les États-Unis sont nos alliés, nos amis. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ciblent l'Europe et les pays européens. Donc nous souhaitons que dans les prochaines heures, la raison l'emporte et que les États-Unis décident une exemption globale sur l'Union européenne sur cette augmentation de tarifs portant sur l'acier et l'aluminium. La voie de la raison, c'est une exemption globale de l'Union européenne. Après, si nous n'y parvenons pas, je le redis, la réponse de l'Union européenne sera forte et elle sera unie. Elle sera forte parce que les mesures sont prêtes et elle sera unie parce que nous partageons tous cette estimation que c'est en restant unis face aux décisions américaines que nous serons les plus efficaces. Voilà ce que je veux vous dire sur ce sujet-là, qui est évidemment un sujet majeur, qui occupe l'ensemble de mes partenaires dans le cadre du G20, qui a fait l'objet de nombreuses discussions en marge du G20, en particulier avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, comme je vous le disais. J'ai porté par ailleurs, pendant cette première session, la position qui a toujours été la nôtre sur la taxation du digital et sur la nécessité de taxer les géants du numérique. Je voudrais rappeler pourquoi la France, depuis un an, avec le président de la République, se bat avec autant de fermeté pour obtenir une juste taxation des géants du numérique. C'est d'abord une question d'équité. Personne ne peut comprendre, en France comme en Europe, que des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne, soient taxées, payent l'impôt sur les sociétés, payent leurs taxes locales, et voient que des grandes sociétés comme Amazon, comme Google, comme Facebook, ne paient que des impôts dérisoires en Europe. Personne ne peut l'accepter. C'est une question de justice. Et puis c'est une question d'efficacité, parce que si la valeur est dans la donnée, eh bien, il faut bien garantir aussi une fiscalité sur ces données pour financer demain nos crèches, nos hôpitaux, nos écoles, nos services publics. C'est aussi une question d'équité. La France a porté ce projet depuis plusieurs mois. Elle a rassemblé l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne autour de son projet. 19 États nous ont rejoints. Et mercredi, la Commission européenne présentera sa proposition de taxation du numérique. C'est une avancée majeure, car c'est la preuve que l'Europe est capable de prendre son destin en main, et sur des sujets aussi importants que les sujets fiscaux, elle est capable d'ouvrir une voie nouvelle. Elle ne subit pas, elle ne suit pas, elle propose et elle est devant. Et c'est comme ça que nous aimons l'Union européenne. Pas lorsqu'elle subit, pas quand elle est derrière, mais quand elle propose et qu'elle est devant. Tout ça est parfaitement complémentaire des travaux qui se poursuivent au sein de l'OCDE, mais ces travaux au sein de l'OCDE, je le dis depuis plusieurs mois, ils sont de très grande qualité, ils sont indispensables, mais ils sont sur du temps très long. Et je crois que nos concitoyens ne sont pas prêts à attendre très longtemps avant que nous prenions des décisions. Donc nous aurons cette proposition de la Commission, une proposition de directive. Je souhaite qu'elle puisse être adoptée après examen d'ici la fin de l'année 2018 ou début de l'année 2019. Puis les travaux de l'OCDE se poursuivront. Et si l'OCDE a une meilleure proposition à faire, plus complète, plus efficace, eh bien il sera bien temps de l'adopter lorsqu'elle sera disponible. La taxation du numérique sera mentionnée dans le communiqué final, mais c'est un mystère pour personne que nous n'avons pas d'accord sur ce sujet. Mais ce que je trouve intéressant, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'accord au sein du G20 sur la taxation du numérique, c'est que l'Europe soit capable de prendre l'initiative et de dire, même s'il n'y a pas d'accord dans le cadre du G20, nous, Européens, nous estimons que c'est une priorité et qu'on ne peut pas continuer comme cela. Donc ça, je crois que c'est un signal politique majeur et très nouveau d'avoir l'Europe capable, même s'il n'y a pas d'accord au sein du G20, de continuer à avancer en disant ben, les autres États nous rejoindront quand ils seront prêts. Sur les cryptoactifs, je vous confirme que le projet de déclaration finale, pour l'instant, ce n'est encore qu'un projet, il n'est pas difficilement adopté, donc tout ça est à prendre avec toutes les précautions nécessaires. Mais reflétera exactement ce que je crois le G20 pense, c'est-à-dire que nous sommes favorables au développement de ces nouvelles technologies financières, mais il faut réfléchir à un encadrement, et c'est dans le cadre du G20 que cette réflexion doit être menée. Le troisième sujet qui va nous occuper ici, c'est la question de la régulation des crypto-actifs. Là encore, je voudrais redonner le cadre général. C'est parce que la France veut rester moteur en termes de nouvelles technologies financières, veut rester sans doute l'une des nations développées les plus en pointe sur les fintech. La fintech française, c'est un des éléments de puissance économique de notre pays, un des éléments de rayonnement. Et c'est justement parce qu'on croit à la fintech qu'on estime indispensable, quand on développe de nouvelles technologies, de fixer des limites. La France a été l'un des premiers pays au monde, avec l'ordonnance de décembre 2017, à prévoir l'utilisation de la blockchain dans le cadre de transactions institutionnelles. Elle va autoriser le recours aux jetons, les ICO, pour un certain nombre de financements. Et ça figurera dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises que je présenterai le 2 mai au Conseil des ministres. Elle a un écosystème particulièrement porteur. Donc oui, je tiens à ce que notre fintech reste leader dans le monde, leader en Europe. Mais pour qu'elle puisse le rester, il faut garantir aussi que lorsqu'on recourt au Bitcoin, il n'y a pas d'effet négatif, il n'y a pas soit d'utilisation à des fins terroristes, soit de blanchiment d'argent, soit de risque spéculatif trop élevé pour ceux qui recourraient au Bitcoin. C'est ces éléments-là que nous voulons poser sur la table pour parvenir à un cadre de régulation, et je me félicite que dans le projet de communiqué final, nous ayons effectivement la mention de la nécessité de réfléchir à une meilleure structuration de ces crypto-actifs. Donc voilà les trois sujets sur lesquels nous allons nous concentrer au cours de ce G20, aussi bien dans un format multilatéral que dans un format bilatéral avec une multiplication de rendez-vous. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de voir le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, de voir le chancelier de l'échiquier britannique, Philip Hammond, de voir mon homologue australien, de voir évidemment mon homologue argentin qui m'a accueilli avec beaucoup d'amitié, d'avoir un long entretien avec le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, d'échanger avec le vice-chancelier allemand Olaf Scholz, d'avoir un échange avec la présidente du FMI, Christine Lagarde. Donc voilà, c'est une occasion aussi de porter les valeurs, les idées et les propositions chères au président de la République et à la France. Les problèmes commerciaux sont effectivement mentionnés, mais ce que nous souhaitons surtout, c'est rappeler à quel point le libre-échange, fondé sur des règles de réciprocité, est la seule façon de maintenir un niveau de croissance élevé dans le monde. C'est ça l'enjeu. Christine Lagarde a rappelé que la croissance était solide dans le monde. Mais comme d'autres, et je l'ai fait aussi pendant la séance du G20, j'ai rappelé que le retour du protectionnisme aurait un impact négatif sur la croissance. Et que nous, au contraire, nous souhaitions soutenir la croissance et la développer.
Est-ce que le sujet sur le libre-échange avec le Mercosur a été abordé également ?
Alors, il n'a pas été abordé dans le cadre du G20, mais vous savez que cet accord est en cours de négociation, qu'il comporte beaucoup d'éléments positifs pour l'Europe. Il y a des sensibilités qu'on connaît parfaitement et auxquelles je suis personnellement particulièrement sensible, puisque j'étais 3 ans ministre de l'Agriculture, sur l'agriculture. Mais au-delà de ces sensibilités, sur lesquelles il reste encore du travail, nous avons beaucoup d'intérêt, de part et d'autre, à la conclusion de cet accord. Le président de la République a eu l'occasion de le dire quand il a rencontré le président Macri à l'occasion de son déplacement à Paris en janvier dernier. Donc nous souhaitons que cet accord sur le Mercosur puisse se traduire par des avantages bénéfiques des deux côtés de l'Atlantique. Pour le moment, il y a encore des points qui sont soumis à discussion. Nous attendons aussi un certain nombre de propositions venues de l'Amérique du Sud. Et quand ces propositions viendront, ça nous permettra d'avancer. Moi, je préfère un accord qui met du temps à être négocié, mais qui, au bout du compte, est un bon accord qui satisfait les deux parties, plutôt qu'un accord conclu dans la précipitation.